Alors, allons-y pour Genèse chapitre 5. On poursuit notre commentaire, notre étude du début de la Bible, les récits des origines. Et le message de ce matin, je l'ai intitulé Marcher avec Dieu. Je voudrais vous raconter une histoire qui date d'une visite que j'ai faite dans un village amérindien vers 2007. J'ai visité ce village dans un groupe qu'on pourrait appeler missionnaire, bien que c'est un mot qu'on n'aime pas utiliser quand on est avec les Amérindiens, parce que ça évoque beaucoup d'erreurs qui ont été faites dans le passé, mais en tout cas, un partenariat entre chrétiens. On est allé en équipe là-bas. Et vous savez, les familles amérindiennes, souvent, sont, et c'est typiquement des familles qui ont énormément souffert. Et je n'irai pas dans les raisons de cela, c'est complexe. Mais ce qui est malheureux, c'est que souvent, l'erreur qui a été faite, les Amérindiens ont décidé ou essayé de trouver un remède, un médicament pour leur souffrance, et un mauvais médicament qui est l'alcool. Et dans ce village-là où j'étais, il se trouve que c'était quasiment la norme, l'habitude, la norme, que les foyers étaient dans le chaos et l'autodestruction à cause de l'alcool. Et bon, l'alcool dans la famille, je pense que vous savez ce que c'est, vous avez entendu parler, ça cause beaucoup de dégâts. La pauvreté, la négligence, la violence, la dépression, ça peut mener au suicide aussi, et surtout la brisure des relations. Mais je me souviens d'une maison en particulier dans ce village, celle d'Étienne et Linda. J'ai changé leur nom parce que je sais qu'ils sont beaucoup à l'Internet, puis je ne leur ai pas demandé la permission de raconter leur histoire. Alors, Étienne et Linda étaient à l'époque, en 2007, des personnes âgées. Ils étaient peut-être 70 ans. Et on pourrait dire un patriarche puis une matriarche dans le village. Étienne et Linda avaient reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie une trentaine d'années auparavant, à travers le ministère d'un couple missionnaire qui œuvrait pour l'Évangile dans ce village. Et comme beaucoup d'Autochtones de ce village, il y avait comme une longue période entre leur ouverture initiale pour recevoir Christ et puis la décision de vraiment marcher avec Dieu, de vraiment tout miser sur Jésus-Christ dans leur vie. Puis dans leur cas à eux, les deux ont décidé, mais plusieurs années après, ils ont dit, on lâche l'alcool pour de bon, on n'est pas capable de gérer ça, puis ça cause juste des troubles, on ne touche plus à l'alcool. Et puis, à partir de ce moment, ils marchaient vraiment droit avec le Seigneur. Et moi, j'étais dans leur maison en 2007. C'était vraiment quelque chose d'être accueilli dans leur maison. Alors, la famille d'Étienne et Linda était vraiment typique des familles amérindiennes de cette place-là, à bien des égards, très intégrées dans la vie du village. Ils participaient aux activités traditionnelles de chasse, de pêche, et ils pêchaient le doré sur le réservoir Gouin. Ça, vous commencez, ceux qui connaissent un peu les Amérindiens peuvent se faire une idée de c'est quel village, mais et ils apprêtaient le doré, c'est un très bon poisson à manger à leur manière, et ils connaissaient tout ça. Création artistique, c'était des musiciens aussi. Ils participaient à la petite église évangélique du village, et puis, leur maison était grouillante de monde, OK? Ça aussi, c'était assez typique. Il n'y a pas assez de maisons dans ce village pour le nombre de personnes. Et puis, il y avait peut-être 30 personnes qui habitaient dans leur maison, multigénérationnelles. Alors, les arrière-arrière-grands-parents, c'était eux. Il y avait leurs enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Puis, si un bébé arrivait à travers une des arrière-arrière-petites filles, eh bien, c'est sûr qu'il l'hébergeait aussi. Parce que ça aussi, c'est un phénomène dans ce village-là qu'il faudrait prendre le temps d'expliquer, mais les filles tombent enceintes très jeunes. Et en tout cas, une trentaine de personnes à cette maison-là, sans parler des chiens, parce qu'il y a beaucoup de chiens dans ce village, et ils habitaient dans la maison aussi. Mais en dépit de toute l'action sous ce toit, on était frappés. J'étais frappé par la sérénité, la propreté, l'organisation qui régnait chez Étienne et Linda. Ils vivaient à leur rythme, pas trop vite, pas trop lentement, et ils prenaient le temps d'écouter le Seigneur, là où ils étaient, pour les petites choses puis pour les grandes choses, et ils posaient les gestes qui s'imposaient. En bref, ils marchaient avec Dieu. Et c'est l'expression qu'on va voir, marcher avec Dieu. On va voir ça dans Genèse chapitre 5 et on va essayer de mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour ma vie aussi. Parce que il y a comme dans la vie d'Étienne et Linda, dans ce village ravagé par la souffrance, il y a comme un inversement qui a eu lieu que je veux mentionner ici, c'est que ce qui était normal dans le village, c'est-à-dire le règne de l'alcool, le règne de la drogue, le règne de la destruction, ce qui était rendu normal, c'est éloigné du normal de cette maison-là, de ce couple-là. Marcher dans l'alcool était devenu anormal pour Étienne et Linda. Puis leur nouveau normal à eux, qui était comme extraordinaire dans le village, c'était devenu leur réalité ordinaire. La paix avec Dieu, la vie qui engendre la vie, cela était devenu leur normalité. Quand on les regardait, on se disait, mais ils n'ont pas l'air de martiens. Ils ont l'air de gens normaux, puis qu'est-ce qu'ils vivent? C'est tellement meilleur que ce qu'ils étaient avant. Alors, c'est ça le paradoxe que j'aimerais vous dire. En devenant normal, ils sont devenus anormaux. Ils sont rentrés dans l'extraordinaire de Dieu. Et pourtant, quand ils sont rentrés dans ça, c'est comme, wow, c'est vraiment pour ça que Dieu nous a créés. Alors, j'ai raconté cette longue histoire parce que ce village, ben, c'est l'image de notre monde. C'est l'image du monde entier. Nous vivons dans un monde qui s'est habitué à comprendre les choses à l'envers. Je pense qu'il faut le réaliser. Bien souvent, le médiocre est devenu normal. Puis le bon, c'est devenu anormal. Au point où on va se moquer de ceux qui vivent bien, de ceux qui vivent de la manière que Dieu nous a créés pour vivre normalement. On va appeler le bien mal et le mal bien. On va mettre de l'avant le mal comme objet de fascination et de divertissement. Moi, j'ai remarqué que sur les autobus, au mois de décembre, il y avait des grosses publicités, puis c'était comme « Hey, il y a une nouvelle série télévisée qui est basé sur Montréal. » Et puis, c'était basé sur la vie d'une famille montréalaise qui était mise de l'avant pour notre divertissement. Et puis, vous savez quelle famille qu'ils ont choisi? Et la famille de Vito Rizzuto, le chef de la mafia montréalaise qui est mort en 2013. Et en fait, en fouillant sur Netflix, je remarque que dans d'autres villes, ils ont pris un chef de la mafia, puis ils ont fait une série télévisée basée sur le champion du crime organisé. Et je me suis dit, wow, comment ça se fait que ça me donne du divertissement, ça me donne du plaisir qu'on glorifie quelqu'un que son normal à lui, c'est de détruire la vie des autres. Soit par la drogue ou soit par tuer du monde, neutraliser du monde qui veulent eux aussi vendre de la drogue. On s'habitue à la normale, on le glorifie, Et comme Asmik Jean-Jacques nous a dit quand il était parmi nous au mois de novembre, ceux qui étaient là ont entendu le témoignage d'Asmik, qui lui a vécu dans le crime organisé aussi, et qui est maintenant pasteur, qui est maintenant chef d'un mouvement jeunesse chrétien basé ici à La Corde. Il a dit des choses qui m'ont frappé. Il m'a dit, et il nous a dit, vous vous souvenez, marcher dans le crime, là, c'est pas ça qui est difficile. Ce qui est difficile, c'est décider de suivre Dieu. Est-ce que vous vous souvenez quand il a dit ça? C'est de se lever à tous les matins puis obéir à Dieu dans les choses simples. Écouter Dieu, puis il disait des choses comme s'habiller puis aller à l'école, qui est souvent l'occupation de nos jeunes parmi nous. Mais marcher avec Dieu, c'est ça qui est normal. Et c'est parfois difficile, même si c'est simple. Alors, le chapitre 5 de la Genèse, c'est un drôle de chapitre que j'ai pensé peut-être sauter par-dessus, mais finalement, on va le lire pareil ce matin, parce que c'est une description de la vie humaine médiocre. Les générations humaines, vous allez voir, elles sont listées une après l'autre. C'est une vie médiocre, répétitive. Une personne va naître. Une personne va se marier. Elle va avoir des enfants. Elle va marcher pas mal toute seule sur la terre, c'est ce qui est sous-entendu. C'est-à-dire sans relation réelle avec Dieu. Puis, elle va mourir. Elle meurt. Elle a créé, elle a engendré la nouvelle génération, mais il n'y a pas d'indication qu'elle a laissé un impact réel pour aider la prochaine génération. Mais il faut qu'on se souvienne que cette médiocrité, ce n'est pas normal. Cette médiocrité-là, c'est triste. À l'origine, Dieu nous a créés pour autre chose. Hein? Souvenons-nous, Genèse chapitre 2, le jardin d'Éden, Dieu, il est en dialogue, en relation avec les premiers humains, et cela leur donne la vraie vie. Mais dans cette généalogie qu'on va lire, qui est médiocre, ben, il y a deux exceptions. Il y a deux personnages, il y a Enoch, puis il y a Noé. Et eux sont spéciaux, ils vivent quelque chose d'extraordinaire, mais cet extraordinaire-là nous est présenté comme, hein, on inverse les choses, comme le normal de Dieu, qui nous est présenté comme un modèle qu'on serait supposé, qu'on est invité à suivre, d'accord? Est-ce que vous me suivez? Oui, bon. On va lire le texte. Et vous allez voir, ça se répète beaucoup. Voici le livre de l'histoire d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et les bénit. Il les appela êtres humains lorsqu'ils furent créés. À l'âge de 130 ans, Adam eut un fils à sa ressemblance, à son image, et il l'appela Seth. Adam vécut 800 ans. Après la naissance de Seth, et il eut des fils et des filles. Adam vécut en tout 930 ans, puis il mourut. À l'âge de 105 ans, Seth eut pour fils Enoch, et il eut des fils et des filles. Seth vécut en tout 912 ans, puis il mourut. À l'âge de 90 ans, Enoch eut pour fils Kenan. Enoch vécut 815 ans après la naissance de Kenan, et il eut des fils et des filles. Enoch vécut en tout 905 ans, puis il mourut. Ouais. À l'âge de 70 ans, Kenan eut pour fils Mahalaleel. Kenan vécut 840 ans après la naissance de Mahalaleel, et il eut des fils et des filles. Kenan vécut en tout 910 ans, puis il mourut. À l'âge de 65 ans, Mahalaleel eut pour fils Jared. Mahalaleel vécut 830 ans après la naissance de Jéréel et il eut des fils et des filles. Mahalaleel vécut en tout 895 ans et il mourut. Ça, c'est répétitif, c'est plate, c'est fait exprès. On continue. À l'âge de 162 ans, Jéréel eut pour fils Hénoc. OK, écoutez bien là. Jéréel vécut 800 ans après la naissance d'Hénoc. Et il eut des fils et des filles. Jéréel vécut en tout 962 ans, puis il mourut. Hénoc, à l'âge de 65 ans, Hénoc eut pour fils Methuselah. Hénoc marcha avec Dieu 300 ans après la naissance de Methuselah. Et il eut des fils et des filles. Hénoc vécut en tout 365 ans. Hénoc marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là. Il ne fut plus là parce que Dieu l'avait pris. À l'âge de 187 ans, Methuselah eut pour fils Lémec. Methuselah vécut 782 ans après la naissance de Lémec et il eut des fils et des filles. Methuselah vécut en tout 969 ans, puis il mourut. À l'âge de 182 ans, Lémec eut un fils. Il l'appela Noé. Ne vous inquiétez pas, on approche de la fin. Noé en disant, « Celui-ci nous consolera de notre travail et de la peine que ce sol procure à nos mains parce que l'Éternel l'a maudit. » Lémec vécut 595 ans après la naissance de Noé et il eut des fils et des filles. Lémec vécut en tout 777 ans, puis il mourut. Noé était âgé de 500 ans quand il eut Sem, Cham et Japhet. C'est la fin du chapitre 5. Oui, Seigneur, continue de nous guider comme Laurélie a prié, qu'on soit à ton écoute, pour que ce soit toi, ô Esprit Saint, qui nous parle à travers le texte. Amen. Alors, comme j'ai dit, on veut essayer de mieux comprendre ce que signifie « marcher avec Dieu », une expression qu'on a vue dans le cas de Hénoc, mais qui va aussi être importante pour Noé. Noé qui, donc le texte s'arrête avec Noé, puis là, il y a trois chapitres complets qui nous racontent la vie assez exceptionnelle de Noé. Mais à un moment donné, vous allez voir, il est question du fait que Noé, lui aussi, il a marché avec Dieu. Donc, c'est comme quelque chose pour dire, c'est ça qui a fait la différence dans ces deux vies-là. Alors moi, ce que je vais faire, j'ai comme cinq commentaires à faire sur ce drôle de chapitre. Voilà, les cinq, c'est comme cinq paragraphes, sont listés là. Premièrement, juste pour ceux qui ont remarqué des chiffres assez élevés, donc, c'est assez typique dans les textes sacrés anciens. Donc, il y a ceux d'Israël, mais il y a ceux des peuples à côté, très typique d'avoir des généalogies, donc des listes de générations. Et il y a beaucoup de choses symboliques dans ces listes-là. Puis, j'avoue que je n'ai pas toutes les réponses à toutes les questions. Une des choses que j'ai vues, c'est que de plus en plus, les spécialistes, ils disent que les chiffres ont probablement un sens symbolique. Beaucoup des chiffres dans les listes qui sont données, les âges qui sont donnés, c'est des multiples de 3, des multiples de 7, puis des multiples de 10, qui sont des nombres spéciaux dans la pensée d'Israël. 3, c'est comme la plénitude. 7, c'est le chiffre de Dieu. 10, bien, je ne suis pas sûr, mais 3 plus 7 égale 10, donc c'est vraiment bon, 10. Et puis, beaucoup des chiffres, c'est des multiples de 3, de 7 ou de 10. Et on pense qu'à un moment donné, il y a eu des codes que ceux qui étaient des scribes pouvaient comprendre. Et donc, ce qui arrive, c'est que certaines des généalogies aussi, on va arrondir les choses pour que les chiffres arrivent beaux. Donc, par exemple, Matthieu, lui, dans le Nouveau Testament, il va reprendre ça dans la généalogie de Jésus, qui est à peu près correct, mais Matthieu s'arrange pour que ça soit 14, 14, 14. 14 générations entre Abraham et l'exil à Babylone. 14 générations entre Babylone, pardon, Abraham et David, David et Babylone. Babylone et Jésus. 14, 14, 14. À certains moments, on a l'impression que Matthieu fait exprès de sauter un nom. Il veut nous dire quelque chose par le 14, 14, 14. 14 qui est un multiple de 7. Il y a comme une genre de perfection qu'il essaye de nous communiquer dans la généalogie de Jésus. En tout cas, je voulais juste vous dire ça. Il y en a qui peut-être veulent faire de la recherche là-dessus. Moi, je veux regarder vers d'autres choses dans le texte, pas les symbolismes numériques. Mais je voulais juste vous dire que c'est une piste. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette question de normal anormal dans la liste. Comme je vous disais, dans cette liste de générations, je crois qu'il y en a 10 ici. La majorité des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils naissent, ils ont des enfants, puis ils meurent. Hein, on l'a vu. Et est-ce qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, en gros, c'est la même affaire? C'est plate de lire des textes comme ça, mais c'est parce que quand on se laisse aller, nous, les humains, on peut tomber facilement dans cette répétitivité qui est plate, qui est médiocre et qui produit la mort. Pour combien de gens est-ce qu'on peut dire, quand on regarde autour de nous, oui, ils naissent, ils se marient, ils engendrent des enfants. En passant, je dis une petite parenthèse, dans la Nouvelle Alliance, c'est quand même moins important de faire des enfants que dans le temps d'Israël. Oui, c'est important. Oui, c'est merveilleux. Puis le fait qu'Alex et Maritza ont la grâce d'en engendrer un deuxième, c'est absolument merveilleux. Mais ceux qui n'en ont pas, ou ceux qui n'en auront pas, ce n'est pas la fin du monde parce qu'on est rendu dans la période de l'engendrement spirituel. On contribue à la nouvelle naissance aussi de toutes sortes de personnes, la naissance spirituelle qui est en quelque sorte la vraie. Et donc, juste pour ceux qui n'ont pas d'enfants ou qui ont, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez avoir une vie qui donne la vie. Mais pour des gens ordinaires comme moi qui se sont mariés, qui ont engendré des enfants. Mais combien de gens autour de nous, est-ce qu'on peut dire, ils marchent avec l'Éternel? Ils marchent avec Dieu. Et ils ont donc un réel impact sur leurs enfants, sur leur génération, avec cette vie que Dieu transmet. C'est ça la grosse question. C'est ça la question que le texte nous pose. Je pense que la réponse qu'on peut donner à cette question, c'est que autour de nous, ils sont pas tellement nombreux. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ils sont pas tellement nombreux, les gens qui marchent avec Dieu. Ils sont pas tellement nombreux. Mais ceux qui le font, c'est incroyable comment ils peuvent avoir un impact. Ils peuvent transmettre la vie. Puis ça nous pose la question, moi, avec l'aide de Dieu, est-ce que je veux faire partie de ceux qui marchent avec Dieu dans ma vie ordinaire pour impacter mon monde? Amen. C'est une bonne question. Est-ce qu'on veut dire oui à ça? Yes. Bon, oui, moi j'ai lu une histoire à Noël, j'ai reçu un cadeau. Un drôle de cadeau assez spécial, un livre pour enfants. Un livre pour enfants, c'est la vie de mon beau-père, le père de Cheryl. C'est dommage qu'elle ne soit pas ici. D'un autre côté, je suis sûr que je l'aurais fait pleurer. Mais j'y ai lu mon texte pareil. c'est parce que le père, le beau-père, mon beau-père, Karl, a vraiment vécu une vie extraordinaire. Pourquoi? Parce que parce qu'il a compris quand il était enfant, quelqu'un lui a expliqué qu'il pouvait se repentir, il pouvait donner sa vie à Dieu, puis marcher avec Dieu. Puis il avait 10 ans quand quelqu'un lui a expliqué l'Évangile. Puis à 10 ans, il s'est vraiment repenti, il a compris, puis il a donné sa vie à Christ. Et pendant très longtemps, il était tout seul dans sa famille à connaître Dieu, à marcher avec Dieu. Et c'est un gars qui a marché avec Dieu. Marcher, on va le voir tantôt, c'est une image de quelque chose de bien ordinaire. Marcher, c'est mettre un pied devant l'autre dans la vie de tous les jours. Martin nous expliquait la semaine passée que oui, c'est vrai qu'il y a comme un déséquilibre, puis il faut mettre le pas en avant. Mais c'est quelque chose de juste normal de marcher. Mais Karl, il a marché avec Dieu et Dieu le guidait. Et extraordinaire, ces quatre enfants ont vraiment décidé de servir Dieu dans leur vie. Et c'est assez merveilleux que tous ces enfants servent Christ dans des contextes différents, en prenant des responsabilités aussi pour le royaume de Dieu. Ça, c'est vraiment un impact. Ça, c'est vraiment un legs. Quand il est décédé, cette année, ben, c'est sa fille avec sa petite fille qui ont décidé d'écrire sa vie dans une histoire pour enfants illustrée. Ils ont trouvé une illustratrice, il y a des beaux dessins. Puis le nom du livre, c'est en anglais « Billy and the Ripple », que je traduis « Billy et l'effet de la vague ». Hein, la vie de Billy, c'est comme, il y a un effet de vague quand tu marches avec Dieu. Et Billy, c'était le surnom de Karl quand il était enfant. Et un homme ordinaire, mais parce qu'il a choisi de marcher avec Dieu, il a eu une vie extraordinaire. Il venait d'une famille très défavorisée. Il a grandi dans la pauvreté. Et quand il a, en tant qu'enfant de 10 ans, il a donné sa vie au Seigneur, ben, il s'est repenti de quoi? De voler. Il volait du pain et des poules pour aider à nourrir sa famille, à tel point qu'ils étaient pauvres. Un autre foyer détruit par l'alcool, puis lui, il connaissait le vol. Juste donner un exemple de ce qui s'est passé dans sa vie, comment qu'il écoutait Dieu dans les choses ordinaires. Lui, il a été appelé à l'armée en tant que jeune adulte. Il avait commencé des études collégiales, le premier de sa famille. Il a dû interrompre pour aller en Corée. Il y avait une guerre en Corée. Lui, c'est un Américain. Il est allé, non pas comme combattant comme tel, mais il était dans une unité médicale. Et la chose qui l'a vraiment frappé là-bas, une des choses, c'était les orphelins de guerre. Ça, il en a beaucoup parlé. Les jeunes, les enfants coréens, sans parents à cause de la guerre. Et c'est drôle, mais Dieu lui a parlé à travers ça. Il aurait pu revenir aigre, ou décider d'oublier ça, non. Il est revenu aux États-Unis et puis il a pris une job avec Vision Mondiale, une organisation qui commençait avec le but d'aider les enfants pauvres du monde. Et plus tard, il s'est lancé dans une autre mission d'évangélisation parmi les enfants. Donc, vous voyez comment vivre des choses difficiles, vivre la guerre, voir des choses horribles, mais qu'est-ce qu'il faisait? Il marchait avec Dieu. Il a vu des choses. Il a vécu des inconforts. Là, je reprends des thèmes de la semaine passée. Mais il marchait avec Dieu, puis il écoutait Dieu. Puis Dieu lui parlait. Puis le millier d'enfants qu'il a impacté dans sa vie, c'est assez extraordinaire. Un effet de vague, comme Enoch, comme Noé. Puis toi aussi. T'as une vague à faire. Tu es en train de la faire déjà, mais il ne faut pas lâcher. Veux-tu impacter ton monde là où tu es? Dieu t'invite à marcher avec lui. Mon troisième point, c'est les deux exceptions, Enoch et Noé. Juste, on voit que c'est raconté différemment dans la liste. Et c'est simple, Enoch a pris une décision qui a tout changé. Il a décidé de marcher avec Dieu. Alors, est-ce que c'est grâce à son propre mérite? On ne va pas reprendre ce débat-là. C'est Dieu qui vient le toucher. Et puis, Enoch répond positivement, « Ouais, je vais marcher avec toi, Éternel. » Et puis, c'est ça qu'il a fait. Puis, c'est intéressant la réaction de Dieu. Dieu ne le laisse pas mourir. Il le prend avec lui. Alors, et il y a eu beaucoup de spéculations sur Enoch dans le milieu chrétien et même dans le milieu des Juifs. Il y a même un livre qui a été écrit, un livre apocryphe qui s'appelle Enoch, une fiction religieuse où est-ce que Dieu renvoie Enoch sur la terre pour raconter aux hommes qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps. Alors, comme je vous dis, c'est de la fiction, ça ne fait pas partie de notre Bible et je vous invite pas nécessairement à le lire, bien que c'est correct si vous le lisez, mais c'est pour dire, on a beaucoup été frappé par cette idée que, waouh, Dieu a pris Enoch dans le ciel. Mais c'est pour montrer que Dieu, il s'attache aux hommes et aux femmes qui marchent avec lui. Et dans la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ, dans laquelle nous sommes, ben, ce qu'on apprend, c'est que, oui, nous aussi, on a la grâce de pouvoir marcher avec Dieu en Jésus-Christ. Puis c'est Jésus qui a été le premier à marcher, puis nous, on marche en Dieu, en Jésus-Christ, pour marcher avec Dieu. C'est comme si on s'accroche à sa robe, puis il nous traîne, puis on marche avec lui. Et nous, oui, probablement, on va passer par la mort. Mais Jésus nous dit, dans un sens, on ne va jamais vraiment voir la mort. Il dit, la femme, l'homme qui croit en moi, il ne mourra pas. Hein? On a vu ça dans l'Évangile de Jean. C'est-à-dire que notre mort physique, ça va juste être un passage vers la vie éternelle permanente. Amen! Amen. On n'a plus peur de la mort. En tout cas, on serait supposé surmonter cette peur-là pour vivre à plein. Hein? On est des morts vivants. On est comme les zombies qui sont sortis du tombeau dans le film épeurant. On n'a peur de personne. Pas pour faire du mal, mais pour servir Dieu. Amen? Noé, lui. Noé, bien, la liste s'arrête avec Noé. Et puis, lui, bien, il y a un long développement sur sa vie exceptionnelle. Exceptionnelle parce qu'il a choisi le normal de Dieu, qui est de marcher avec Dieu. Et justement, dans le chapitre 6, on ne l'a pas lu, mais il y a comme une pause dans l'histoire du déluge et tout ça. Et puis, le narrateur, il s'arrête et il dit, cependant, il parle de la génération de Noé, vous allez voir la prochaine fois, c'est désastreux. La description des humains à l'époque de Noé, c'est pas beau. Mais là, il fait une pause, il dit, cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Hein? Un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. J'aime cette expression « dans sa génération ». Que nous, on peut se dire, « Hey, le Québec d'aujourd'hui, c'est juste plus possible de marcher avec Dieu. » Non, c'est faux, c'est notre génération. On va marcher avec Dieu dans notre génération. Dans notre monde, dans ton quartier, dans ta bizarre de famille, tu vas marcher avec Dieu. Amen! Noé, en plus, vous allez voir, il était loin d'être parfait. Et c'était un homme juste, intègre, et pourtant, loin d'être parfait. On raconte ses erreurs. À un moment donné, il développe, lui, la distillation de l'alcool. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Et je n'ai rien contre, personnellement. Le vin, c'est un don que Dieu donne aux humains. Mais Noé, lui, à un moment donné, il se saoule. Il se saoule et puis il est en état d'ébriété à tel point qu'il laisse un de ses fils vraiment l'humilier gravement dans la culture que, à un moment donné, il a vu son père tout nu et puis il le raconte au monde. C'est très grave dans cette culture-là. C'est pas particulièrement bien dans notre culture à nous non plus. Mais Noé, lui, il se fait humilier comme ça à cause de l'abus d'alcool. Et après ça, eh bien, il se fâche et il va maudire le fils de ce fils-là, son petit-fils. Puis ça va avoir des impacts terribles sur les générations futures. Noé fait des grosses erreurs. Noé est un pécheur grave, loin d'être parfait. Mais ce qui fait son succès à Noé, c'est ceci. Dieu a pris l'initiative de lui donner sa grâce, de se révéler à lui. Puis Noé, il décide de marcher dans la foi en Dieu. Et le verdict de Dieu, c'est « cet homme-là, il est rentré dans ma grâce ». Et sûrement que Noé aussi a appris la repentance, lorsqu'il faisait des erreurs, il était comme David et il se repentait. David aussi est décrit comme quelqu'un qui a marché avec Dieu, qui était juste et intègre, mais les erreurs qu'il a faites, les crimes moraux qu'il a commis sont aussi très graves. Et pourtant, il était un homme qui a marché en Dieu. Toi aussi, tu peux marcher dans cette repentance-là. Tu peux décider aujourd'hui de marcher en Dieu et avec Dieu. Demande-lui. Tu marches peut-être déjà avec Dieu. Demande-lui de t'amener plus loin dans la marche avec lui. C'est ça le message de Genèse chapitre 5. Mais alors, Que signifie marcher avec Dieu? C'est tellement une image c'est une image forte que c'est difficile à l'analyser. Il y a une idée de mouvement. On avance avec Dieu. Il y a une idée de quotidien. Il y a une idée aussi de décision à prendre. Hein? Il y a des chemins qui peuvent être, il faut que tu ailles dans la direction A ou la direction B, il faut que tu choisisses. Donc, il faut écouter Dieu, il faut consulter Dieu, faire sa volonté que tu peux étudier dans la parole de Dieu, mais aussi si tu peux la demander spontanément dans la prière. Il y a des expressions de marcher avec Dieu qui sont comme proches. On va dire marcher en Christ. On va dire marcher dans l'Esprit. On va dire marcher par la foi. On va dire marcher dans la lumière. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est toutes des expressions qui nous aident à comprendre. Au fond, ça prend toute une vie pour apprendre à marcher en Dieu. On peut penser aussi à Noé. Noé, à un moment donné, lui, il vit sa vie avec Dieu. Puis Noé lui dit, Dieu lui dit, là, il y a quelque chose de vraiment gros qui s'en vient. J'apporte un jugement sur la terre. Toi, tu vas bâtir une arche. Puis tu vas annoncer mon jugement qui vient. Puis Noé avait un choix à faire. D'écouter Dieu ou pas, mais il a choisi d'obéir. Et c'était une marche difficile à partir de ce moment-là, parce que les gens se moquaient de lui. Et il faisait quelque chose qui semblait anormal. et qui condamnait les autres. On marche dans l'inconfort aussi quand on marche avec Dieu. Mais n'oublions pas qu'on a été créé pour être en relation avec Dieu. N'oublions pas Genèse chapitre 2 et Genèse chapitre 3, ce dialogue ouvert avec Dieu qui donne la vie. Enoch et Noé l'ont redécouvert. Dieu, on a vu que c'était l'Emmanuel. Hein? Vous vous souvenez, à Noël, on a dit, Dieu, c'est l'Emmanuel. Dieu avec nous. Donc, marcher avec Dieu, c'est marcher avec celui avec lequel on a été créé de marcher avec. Ça, c'est du très ancien, mais j'espère que vous comprenez. Et justement, je voulais en venir à milieu chrétien, reconnaissant à ces milieux, mais on dit, OK, t'es sauvé, là, on va faire de toi un ouvrier de Dieu. On va t'apprendre à parler de Dieu. On va t'apprendre à donner la dîme. On va t'apprendre à obéir à plusieurs commandements de Dieu. C'est bien, c'est important, mais il me semble que je n'avais pas compris que le dit un des grands prédicateurs de l'Alliance, Dieu Dieu nous a fait pour que nous soyons des adorateurs. La raison pour laquelle Dieu a créé l'homme à son image, c'est afin que l'homme puisse apprécier Dieu, l'admirer, l'honorer et l'adorer.